homicide, equality, all economics, prequels of homage to moments like death toes, and lost souls, refugee hoes, an overdose, and they don't care that we don't know, but we know, we mean, they don't know, and we don't care. The silence, watch the world think about it, constant as a tide is. The shots be violent and blind losing eyelids, just to let them light it. Come on, and this will not get you resistant like a pistol in a kid's grill. It's a bad trip, like a black pill, activate your ass. Well, man, the missile can launch that pistol. Yo, they don't know, and we don't care, and we don't care. And chills, as if you ain't affected by the infectious bill. But it goes through the hill, serve a missile. This still will kill with an unreal dumb. Slugs love from the main blood. Chase done sound, standing by standards. Try higher standards. I'm alive by hand. This is damn, that's what I'm missing. No, and we don't care. And we don't care.
Connaître pour aimer.
Aimer pour protéger.
Dans la nature. Radio Biodive.
Les actus. Les sorties. Les interviews.
Radio Biodive. L'émission qui parle de ta nature.
Bonjour à tous, bah écoutez, on est content de vous retrouver aujourd'hui sous la chaleur tropicale pour cette 8e émission. Et aujourd'hui, on a une nouvelle recrue avec nous, on a une nouvelle Camille. À NR, on fait que des Camilles. Bonjour. Coucou.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Et du coup, Philippe, notre président, est déjà parti en vacances, le petit Vénard. Donc on est avec les deux Camilles et avec Joël aujourd'hui. Donc,
bonjour à tous.
Et la petite thématique de cette émission, il fait chaud et c'est le moment où les libellules émergent et sortent des mares. Donc c'est la thématique du jour. Et je vous propose d'enchaîner avec le jeu du mois.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors maintenant vous commencez à savoir comment ça marche, mais Camille, tu peux expliquer un petit peu.
Oui, alors du coup on va vous passer un son de la nature. Vous avez toute la période de l'émission pour deviner ce que c'est et on vous donnera la réponse à la fin de l'émission, donc dans un peu moins d'une heure.
Thank you.
Alors, est-ce que vous avez trouvé ? On l'entend pas mal en ce moment. Mais on va tout de suite passer au coin-coin.
Eh ben, vous connaissez le principe, hein, on a des bonnes nouvelles et puis on a des petits coups de gueule. Donc je propose à Camille, Camille V, vas-y, commence par ta mauvaise nouvelle.
Oui, une mauvaise nouvelle ou en tout cas une mauvaise un petit peu alarmiste, puisque cette semaine sur le média Reporter, ils ont annoncé que l'Union européenne avait donné son feu vert à une nouvelle génération d'OGM. Donc les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés, et cette nouvelle génération, elle est appelée NGT pour nouvelle technique génomique. Donc finalement, cet article, c'est un débat qui est loin d'être simple, puisqu'il y a d'un côté les défenseurs de ces techniques qui voient plutôt un moyen d'adapter l'agriculture au changement climatique, notamment avec les sécheresses qu'on va subir ces prochaines années et qu'on subit déjà. Mais il va y avoir aussi les opposants qui dénoncent notamment un manque de traçabilité, la possible disparition de certains étiquetages, donc on saura plus ce qu'on mange finalement, et le risque d'un contrôle accru des semences par les grands groupes semenciers. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller le voir sur leur site internet.
Eh ben merci. Alors moi, ma mauvaise nouvelle, ça va plutôt être un coup de gueule. En fait, aujourd'hui, ça vous a pas échappé, il fait chaud. Alors on entend, mais oui, mais on a déjà eu des coups de chaud comme ça et tout. Là, on bat des records de plus en plus tôt, de plus en plus intense. Et ça m'agace d'entendre encore, ouais, ils ferment les écoles, c'est abusé, pourquoi et tout. Et je partage un petit peu le coup de gueule que j'ai entendu sur les réseaux de Thomas Braille, qui fait partie du groupe national de surveillance des arbres. Et partout, on entend qu'on va résoudre les problèmes de canicule avec des climatiseurs électriques, que c'est la solution, qu'il faut climatiser absolument pour que les gens survivent. Mais en fait, c'est pas la solution, quoi. Les climatiseurs, ça va faire des îlots de chaleur, ça capte la chaleur de votre habitation pour la remettre à l'extérieur. Et la canicule, il n'y a pas que les hommes qui en souffrent, il y a aussi la biodiversité. Là, on est submergé par des appels de martinets, donc qui vivent sous les toits, d'hirondelles qui, en fait, ont trop chaud et qui meurent de chaleur. Et en fait, si tout le monde climatise, en fait, on va faire des îlots de chaleur encore plus pour cette biodiversité qui est en ville et en fait si on n'a plus toute cette biodiversité, si elle souffre de la canicule, en fait on pourra avoir des climatiseurs chez nous, on sera quand même dans la panade en termes de survie pour l'humanité. Donc le coup de gueule, c'est que il faut arrêter de couper des arbres et il faut surtout penser sur le long terme et commencer à planter des arbres, débétoniser les cours d'école, etc., planter des arbres et surtout arrêter d'en couper trop de fois encore pour des excuses, c'est trop dangereux, ou on coupe énormément d'arbres alors que c'est le meilleur climatiseur, ça coûte 0€ et c'est ce qui rend et qui baisse les températures la plus efficacement dans les rues, autour des écoles, etc. Et ben voilà, une petite bonne nouvelle, Camille.
Oui, et justement, moi, je vais rebondir sur ton coup de gueule, puisque je vais parler aussi des fortes chaleurs, et notamment ce qu'on peut faire pour la biodiversité. Donc, c'est plutôt un message d'espoir, hein, avec les fortes chaleurs des derniers jours. Le Média Vert a publié un guide pratique pour aider la faune sauvage à traverser l'été. Donc, on découvre notamment dans ce guide quelques gestes simples qu'on peut tous faire, qu'on ait un balcon ou un jardin chez nous, hein. Donc, ces gestes simples, ils peuvent faire la différence. Par exemple, c'est laisser une coupelle d'eau peu profonde pour les oiseaux, les hérissons ou encore les insectes. Ça va être pour garder aussi des zones d'ombre dans notre jardin, donc laisser des zones un petit peu en herbe haute par exemple, ou encore éviter de déranger les animaux pendant les heures les plus chaudes, parce qu'ils sont comme nous, ils ont besoin aussi de se reposer pendant ces heures chaudes. Donc ce sont des conseils assez faciles à mettre en place qui vont montrer que chacun peut agir à son échelle pour la biodiversité.
Et moi j'ai une bonne nouvelle, alors qui va peut-être pas forcément être une bonne nouvelle pour tout le monde, mais un nouveau prédateur arrive en France. Donc ça fait déjà quelques temps, hein, qu'il y a des observations qui sont faites, et je vais vous parler en fait du chacal doré. C'est une espèce qui vient plutôt des Balkans et qui remonte par le sud là en France. Alors c'est à quoi ça ressemble, c'est un mix entre un loup et un renard, c'est entre les deux, c'est pile poil entre les deux. Donc c'est un nouveau prédateur, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais ce que j'aimerais dire en fait, c'est que si ce prédateur arrive en France et qu'il arrive à prospérer comme ça, c'est parce qu'on a éradiqué le loup et que en fait il va pas forcément avoir une zone de répartition partagée avec le loup, donc il va falloir savoir ce qu'on veut. En fait, on veut pas du loup en France, mais en fait, la nature a horreur du vide. Donc, si on laisse pas le loup se répartir sur tout l'hexagone comme il le fait naturellement, et ben, comme la nature a horreur du vide, on va avoir d'autres prédateurs qui vont venir également. Voilà, donc ouvrez l'œil, parce qu'il a déjà été observé sur l'estuaire de Seine, le chacal doré, à deux reprises cette année, il me semble. Et bah, je vous propose maintenant de passer au reportage que Philippe nous a préparé.
Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous dans le parc étranger, avec Fabienne. Enfin, Fabienne et quelques-uns de ses amis. Nous allons écouter des chants d'oiseaux et nous allons apprendre à en reconnaître quelques-uns.
Bienvenue dans Radio Pionnier. Je me trouve actuellement dans la nature.
Fabienne fait partie de l'association Valentin AUI et plusieurs de ses amis sont aveugles ou malvoyants.
Celui-là.
Alors, vous le trouvez gay ? Alors, il y en a un autre, non, c'est le merle.
Il y a un merlot.
Mais on va oublier le merle pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur celui-là.
C'est un sorcier.
Je vous donnerai le nom après. Essayez de le décrire d'abord.
Alors, décrire physiquement.
C'est des sons aigus.
C'est des sons aigus.
Ah oui, ça fait des petites trilles, qu'est-ce que
c'est ? Ça fait des petites trilles. Est-ce que c'est varié ou pas varié ?
Oui, quand même.
Est-ce que c'est long ou court ?
Court. C'est assez court, mais il y en a plusieurs différents.
Il y en a plusieurs différents. C'est varié,
ouais.
Comme son. C'est assez aigu. Est-ce que c'est joli ?
Oui.
Oui.
Là, il est content.
Alors, là, il y a le merle, hein, derrière. C'est très varié, c'est très...
Oui, et puis, au début, je pensais que ça montait simplement, mais non, il y a des moments où il redescend.
Oui,
aussi.
Oui, oui. Bon, on se contente de ça pour l'instant ?
Oui.
Alors, c'est le rouge-gorge.
Ah, ça, c'est un...
C'est le rouge-gorge. Et le rouge-gorge, c'est un oiseau qui fait des chants très variés, très jolis. Et c'est rigolo parce que ce que vous avez dit, il est content. Et il y a des gens qui décrivent ce chant-là comme un chant triste. Beaucoup d'ornithos le décrivent comme un chant triste. Mais je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de sens. Ça n'a un sens que pour soi. Donc c'est pour ça que chacun doit essayer de décrire les chants soi-même et de se faire une idée à soi. Et moi aussi, je le trouve gay. Alors, peut-être une explication pour laquelle des personnes le trouvent triste, c'est un des rares oiseaux qui chante toute l'année.
Ouais.
Y compris en hiver, quand il n'y a personne d'autre, il chante.
Et parce qu'il est toujours content.
Parce qu'il certains, alors certains se disent peut-être, oh, la journée est triste ou nette, il fait pas beau, l'oiseau il chante.
Feuilles sur les arbres et tout, c'est voilà. Différent, l'ambiance quoi aussi.
Oui. Mmh. Oui. Ouais. C'est peut-être pour ça. Mais je suis d'accord avec vous, moi je le trouve plutôt gay. Et chacun doit se faire ses propres idées, sa propre description sur le chant. Voilà, le rouge-gorge. Si on le réentend, peut-être vous me direz, ah, est-ce que c'est bien le rouge-gorge ? Et je vous dirai oui ou non. D'accord ? On l'entend très bien, il est très présent. Alors vous avez entendu aussi le merle tout à l'heure. C'est aussi un chant très varié, peut-être un peu plus, comment on pourrait dire ?
Plus fort.
Plus fort.
Puissant.
Oui, plus puissant.
Des notes tenues.
Oui.
Pardon ?
Des notes un peu tenues.
Notes un peu tenues, oui. Par rapport à tout à l'heure, le rouge-gorge, vous avez dit que c'était aigu.
Oui.
Est-ce que c'est aussi aigu ?
Plus grave.
Un peu plus grave.
Oui.
Vous voyez qu'on peut décrire le chant ? Là, on a les deux. On a le rouge-gorge au-dessus de nous et le merle un petit peu plus loin.
Oui, il va y avoir un autre.
Ces deux oiseaux qui sont bien présents en Normandie. On avance un peu ?
Oui.
Allez.
Non, mais celui-là...
Alors, vous entendez un nouvel oiseau. Très facile à décrire.
Saccadé.
Oui. Est-ce qu'il est aussi varié que celui qu'on a entendu, le rouge-gorge et le merle? Non, c'est pas du tout aussi varié. Combien de... comment on peut le décrire?
Deux notes.
Deux notes. Tip, tap, tip. Facile.
Oui.
Facile à retenir. Deux notes. Tip, tap, tip, tap. Alors.
Et ça, c'est quoi comme oiseau alors, hein?
Alors, c'est quoi comme oiseau? On a la réponse.
Le pouillot.
Le pouillot, lequel?
Véloce.
Oui, le pouillot véloce. Bravo.
Pouillot.
Le pouillot véloce. C'est marrant comme nom.
Oui.
Alors, les Anglais sont beaucoup plus malins que nous. Ils ont un nom qui est beaucoup plus parlant. Ils l'appellent Chiff-Chaff.
Ah oui.
Chiff-Chaff, Chiff-Chaff, Chiff-Chaff. Et nous, alors Pouillot Véloce, c'est le nom français officiel, mais on a un petit nom en français qui parle aussi. On dit que c'est le compteur d'écu. Vous imaginez un avare qui a ses sous et
Chiff-Chaff. C'est rigolo. Compteur d'écu.
Le distributeur de
vous l'avez bien dans la tête.
C'est moi qui vais essayer
l'amplificateur.
Alors, peut-être vous retiendrez forcément pas tous les oiseaux qu'on verra aujourd'hui.
Que je l'entends,
mais si vous deviez en retenir qu'un seul, si vous deviez commencer par celui-là. Il est facile. Et puis, il s'en connaît bien. Alors, je peux le décrire comme oiseau, c'est un petit oiseau, il n'est pas très grand et il n'a pas des couleurs très vives, il est plutôt dans les tons gris, verdâtres. Et il a un petit bec fin, un petit sourcil sur l'œil et il bouge tout le temps. Alors, de nouveau, un chant qui est très intéressant parce que très facile à retenir. Vous avez dû l'entendre, c'est une sorte de cascade qui finit par une note finale.
Ah oui,
ça descend et ça remonte.
À l'instant.
Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic.
Oui.
Ça.
Oui. Ah oui. Oui, oui.
C'est facile à retenir. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Alors, il y a des petites variations selon les
individus. Parce que là, il a fait court.
Et selon les régions. Mais c'est toujours un peu le même schéma. Donc, vous voyez que parmi les oiseaux, il y a des oiseaux qui vont avoir des choses très variées, qui vont faire des chants très différents selon les individus et selon leur presque leur ce qu'ils ont dans la tête à ce moment-là. Ils vont pouvoir chanter différemment. Le pinson, lui, non. Il a un chant très stéréotypé, c'est toujours le même. Ah oui, je vous ai dit que c'était le pinson. Zut, je ne vais pas vous le dire tout de suite. C'est le pinson des arbres. C'est le pinson des arbres. Est-ce que quelqu'un peut me le décrire, du coup, ce chant?
Des crescendo.
Pas mal.
C'est une petite cascade. Ça fait une cascade.
Oui.
Ça remonte.
Pizzicato.
Ça remonte à la fin.
Ouais. Pizzicato.
Ouais. Essayez de retenir ce que vous dites et d'y associer pinson des arbres.
Pinson des arbres.
C'est le pinson des arbres. Voilà. Donc le pinson, alors à mon avis, les deux chants les plus faciles à retenir pour commencer, c'est
le
pouillot véloce, tif-tap, tif-tap, et le pinson des arbres, pizzicato, tic-tic-tic-tic-tic. Je vais vous donner un autre moyen mnémotechnique. Il y a une petite phrase en fait. C'est le pinson mâle et le pinson femelle qui discutent. L'un qui dit à l'autre. Est-ce que tu as pensé à donner à manger à mon petit? Est-ce que tu as pensé à donner à manger à mon petit? Voilà. Bon, chacun se fait ses moyens mnémotechniques, mais sans rien.
Si ça marche, là, mais
des PE.
C'est plus court, ça.
C'est
plus court. Alors, peut-être, Guillaume, tu pourrais nous parler un peu de ce parc.
Donc là, on est dans le parc de Trangis. Donc, en fait, on a une partie... on va avoir plusieurs gestionnaires sur ce site. On a un château qui vient d'être restauré, donc le château de Trangis. Après, on a une partie plus accueil de public avec des accueils de... jeux pour les enfants, voilà, je cherchais. Et puis voilà, des espaces ouverts où on fait le salon des plantes par exemple. L'été il y a le village des sports pour les enfants, et on a toute une partie forestière où là on a tous ces espaces que je vous ai décrits auparavant, ça va être mes collègues espaces verts qui vont les jardiniers, en fait ils vont s'en occuper. Et après on a toute une partie massif forestier où là pour le coup ça va être la compétence donc du service dans lequel je travaille, le service environnement, en partenariat avec l'Office national des forêts. Comme le massif boisé donc de la Madeleine qui est juste à côté, où pareil c'est l'ONF qui gère, donc là donc ça va être par une gestion ENF, et on va avoir donc l'ONF, il y a toujours plusieurs enjeux, il y a un enjeu production de bois, accueil du public, préservation de la biodiversité, et après c'est au propriétaire de mettre le curseur où il veut. Là sur Trangis, clairement la production de bois c'est quasiment inexistant. La coupe de bois, ça va juste être des coupes de sécurité si on a des arbres morts, des choses comme ça à proximité de chemin. Là on va effectuer des coupes, mais sinon les deux enjeux vont être l'accueil du public et la préservation de la biodiversité.
Ah oui, c'est quoi ça?
Très puis, alors vous, je c'est pas moi qui le décris, dites-moi.
Très fort. Ouais.
Très fort.
Criard. On tire ça. Ah non, pas criard.
Des modulations, c'est pas
la... Combien de... Quel temps?
Il y a trois phases différentes.
Oui, il y a plusieurs phases différentes.
Ouais.
Alors, il peut être très varié. Il y a une phase de tri au milieu. Très bonne observation. Très important.
Ouais.
Très important, la tri au milieu.
Là, il est là.
Et il se termine
par quick.
Il y en a qui répond par là.
Pour certains oiseaux, pas tous.
Pas tous.
Aigu, grave.
Aigu.
Plutôt aigu. Long, court.
Long.
Assez long.
Assez long.
On pourrait dire 4-5 secondes.
Et il y a une amorce.
En tout cas, très varié, très, très joli quand même. Hein.
Oui.
Puissant.
T'as vu, il est juste là.
Il est juste là.
Il est sur sa branche.
C'est lui qui a fait une branche.
Ah bah il s'est envolé.
Tu crois que c'était lui qui chantait?
Il était sur sa branche. Ouais.
Donc je vous le donne. Alors c'est marrant parce que justement c'est assez rigolo. C'est très puissant comme chant. Hein. C'est un tout petit oiseau. Vous savez lequel? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le tout petit oiseau d'Europe avec le roitelet.
Troglodyte.
C'est le troglodyte.
Ah, c'est lui.
C'est le troglodyte, et son vrai nom c'est Troglodyte Mignon.
Et si je te disais que ta vie dépend des océans? Hein? C'est impressionnant. On t'a toujours dit que tu respires grâce aux arbres. Mais en fait, une respiration sur deux, c'est l'océan qui te donne l'oxygène. Et il t'en donne tellement, l'océan. Après avoir pillé la terre, on pille l'océan. Il est en danger et j'ai besoin de toi pour le préserver. 4 milliards d'années que la vie évolue sur Terre. 4 générations d'humains pour tout foutre en l'air. Le chat, l'utage, grand cambriolage de la mer. Ils ont tout pris, tout détruit, filière mortifère. Sous la surface de l'océan, le plus grand mystère. Le berceau de la vie dans un équilibre précaire. Ils prennent l'océan pour un vulgaire magasin. La vie est top promo avec du sang sur les mains. Mais quand, qu'est-ce qu'on va comprendre? On s'y met, on est assis sur la branche. Mais quand, qu'est-ce qu'on va comprendre? On s'y met, on est assis sur la branche. Océan, air marine protégé. Ça devient urgent. Océan, air marine protégée. Personne ne rentre dedans, j'ai dit. Océan, air marine protégée. Ça devient urgent. La tête dans l'eau, on refuse d'ouvrir les yeux. Ça a beau être océan, je crois qu'on y fout le feu. Biodiversité marine, un terrain inconnu. On joue avec son équilibre, mais on est à la rue. Ils veulent aller chercher des cailloux au fond de l'océan. Ça s'appelle deep sea mining, et c'est trop violent. Les scientifiques disent de paracler le fond de l'océan. Le danger est trop grand, le danger est trop grand. Mais quand, qu'est-ce qu'on va comprendre? On s'y met, on est assis sur la branche. Mais quand, qu'est-ce qu'on va comprendre? On s'y met, on est assis sur la branche. Océan, air marine protégée. Personne ne rentre dedans, j'ai dit. Océan, air marine protégée. Ça devient urgent. Personne ne rentre dedans, j'ai dit. Océan,
c'était Océan de César RLM. Vous êtes toujours dans l'émission Radio Biodiv sur Principe Actif. Et on va tout de suite passer à l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est une libellule appelée le Saint-Pétrum sanguin.
Mais attends Camille, Saint-Pétrum c'est le nom latin de Saint-Pierre, non ? Il est bien connu que Saint-Pierre est colérique, donc sanguin.
Pas du tout, arrête de plaisanter. Alors, en français, le Saint-Pétrum sanguin ou le Saint-Pétrum rouge sang est le pur calque de son patronyme scientifique, Saint-Pétrum sanguineum. Donne-nous plutôt l'étymologie de ce nom étrange, s'il te plaît.
Bon, d'accord, un peu de sérieux. Sanguin ou sanguineum en latin, c'est assez facile, c'est lié à sa couleur rouge sang, ou du moins une partie de ses libellules. Saint-Pétrum, c'est plus difficile. Cela voudrait dire abdomen comprimé latéralement. Étrum étant étron pour abdomen, mais l'étymologie est encore douteuse et en plus pas très judicieuse puisque l'abdomen de cette espèce est plutôt fin et cylindrique. Alors je m'excuse d'avance de mon accent un peu compliqué. En anglais, si on va voir chez nos voisins, Rudy Darter Darter vient de Dart fléchette. Darter pouvant faire penser à la vivacité des Saint-Pétrum. Rudy, lui, pourrait faire plutôt penser à la couleur rouge. En allemand, Heidel Libelle signifie libellule de bruyère. Et ça viendrait de la période de vol assez tardive de ces espèces qui coïncide avec la floraison des bruyères. Dis-moi, il me semble qu'il y a deux sortes de libellules, celles qui ont une seule paire d'ailes et celles qui en ont deux.
Ah non, pas du tout Camille. Toutes les libellules ont deux paires d'ailes, quatre, comme chez la plupart des insectes. Par contre, comme tu l'as dit, il y a bien deux groupes chez les libellules qu'on appelle odonates. On distingue les agrions ou demoiselles, ce sont les toutes petites libellules à l'aspect frêle qui volettent paisiblement. Elles se posent assez facilement sur les herbes et on peut constater qu'elles gardent les ailes fermées au-dessus de l'abdomen. On peut alors avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule paire d'ailes. Ce sont les zygoptères, de zygos attachés, liés et ptères ailes. A contrario, on peut aussi observer les libellules dites libellules vraies, que l'on nomme anisoptères. Ça vient de aniso, différente, et ptère, toujours elle. Ce sont les très grosses libellules qui volent en continu, assez rapidement, au-dessus de l'eau. Ce sont un peu des hélicoptères de la mare. Elles se posent rarement, mais lorsque c'est le cas, on peut observer que les ailes restent ouvertes, étalées à plat, et on voit bien les quatre ailes avec les deux ailes arrière qui sont plus larges.
Ok, super, maintenant je saurais faire la différence entre les deux. Mais il y a quelque chose d'essentiel concernant nos habits de libellule.
Ah oui, quoi ?
Eh bien, ce sont des insectes, donc ils ont six pattes. Et comme tous les insectes et leurs cousins, les autres arthropodes, ils ont une carapace, une cuticule dont ils doivent changer pour pouvoir grandir. Ce changement de cuticule s'appelle une mue. On avait déjà vu ça avec les papillons lors d'une précédente émission.
Mais est-ce que c'est comme chez les papillons qui subissent une métamorphose pour passer du stade chenille au stade adulte ?
Exactement. Les libellules vont subir une vraie métamorphose. Ce n'est pas le cas de tous les insectes. Par exemple, les criquets ou les sauterelles naissent avec le même aspect que les adultes, sauf qu'ils sont plus petits, ils n'ont pas encore d'ailes ni d'organes sexuels. Dans ce cas, les bébés criquets, on va les appeler plutôt des jeunes. Alors que chez les insectes, qui subissent une vraie métamorphose, on va les appeler les holométaboles, les jeunes sont des larves, comme la chenille du papillon.
Alors comment est la chenille de notre libellule ? Mais on peut peut-être pas parler de chenille, plutôt de larve du coup.
Oui, exactement. Et comme tu vas le voir ou l'entendre puisqu'on est à la radio, le cycle de vie des libellules est en trois étapes. Et extraordinaire, la métamorphose grandiose puisque les libellules changent de milieu de vie pendant leur cycle. Au début, c'est un œuf dans une mare. De cet œuf va éclore une larve aquatique. Comme l'adulte, la larve est carnivore et chasse à l'affût dans les plantes ou bien dans les sédiments au fond de l'eau. Évidemment, les larves elles peuvent être victimes d'autres invertébrés aquatiques, comme les dytiques ou alors les larves de très grosses libellules, mais aussi de poissons ou d'amphibiens, comme les tritons ou les larves de salamandres. Elles peuvent aussi servir de repas aux oiseaux ou aux micro-mammifères, comme les musaraignes aquatiques. Alors, le développement de cette larve va durer entre 6 et 10 semaines en 8 à 13 stades.
8 à 13 stades, ça veut dire quoi ça ?
Finalement, un stade, c'est le nombre de fois où elle va muer.
Et une fois qu'elle a atteint une taille suffisante, elle va émerger, c'est-à-dire que la larve va monter sur une